Chapitre 4, début du livre 5. La partie de la muraille où étaient sculptés les signes mystérieux et le couple d'oiseaux à tête d'homme sembla pivoter sur elle-même, et dans le même moment, Marie-Thérèse poussa un grand cri, car la mort arrivait. Il vint jusqu'à elle, du fond du gouffre obscur qu'avait ouvert le déplacement des pierres cyclopéennes. Quand celles-ci eurent repris leur position première, Marie-Thérèse le vit assis devant elle, dans un fauteuil d'or à deux places. L'une de ces deux places, à côté de la majesté défunte, était encore inoccupée. La foule des Indiens acclama « Gloire à l'Inca !» et se prosterna de nouveau. Les joueurs de Quena soufflèrent leurs airs les plus funèbres dans leurs os de mort. Les deux mamas Conas, qui devaient accompagner Marie-Thérèse dans les demeures enchantées du soleil, se placèrent à sa droite et à sa gauche, et les 10 autres prêtresses formèrent 2 théories qui ne cessèrent de se croiser en balançant leurs voiles. Quand elles arrivaient devant le roi embaumé, elle s'agenouillait, relevait la tête et criait à l'écho « Celui-là est Yuana Capac, roi des rois, fils du grand Tapac Ineayumpanqui. Il est venu par les couloirs de la nuit pour chercher la nouvelle Koya que le peuple Inca offre à son fils Atahualpa. » Puis elles se redressaient, se recroisaient et recommençaient à balancer leurs voiles. Elles firent ce manège 12 fois. Chaque fois, elles criaient plus fort, et chaque fois, les joueurs de flûte dans les eaux de mort faisaient entendre des airs plus stridents. Marie-Thérèse, toujours serrant dans ses bras le petit Cristobal qui avait caché sa tête sur son sein à l'apparition de Yuana Capac, fixait le mort, et le mort la fixait. Il semblait à tous qu'une épouvante hypnotique immobilisait la jeune fille en face de l'envoyé de l'enfer incaïque qui venait la chercher. Le roi avait lui aussi revêtu la robe de peau de chauve-souris propre à la traversée des couloirs de la nuit, mais sous cette parure passagère, il laissait entrevoir le manteau royal et les sandales d'or. Sa noble figure, impassible et sévère, était découverte. Elle avait conservé cette teinte brune qui lui avait été naturelle. Il ne portait sur ses cheveux d'un noir de corbeau que le liantu, la couronne légère à franges et à glands pareils à celles que l'on avait posées sur le front de Marie-Thérèse, mais celle du roi avait les deux plumes du Coracuenque. Les gardiens du temple de la mort avaient-ils glissé sous les paupières, embaumé le faux éclat des billes de verre, ou le prodigieux secret des embaumeurs avaient-ils conservé à travers les siècles la lumière des royales pupilles? Mais il paraissait à Marie-Thérèse que ce monarque funèbre la fixait d'un regard effroyablement vivant. Il était assis, très naturellement, les mains aux genoux. Il sembla même à la jeune fille qu'il respirait, tant ce mort présentait la perfection de la vie réelle. Elle eut un gémissement d'horreur que seul le petit Cristobal entendit, car c'était la 12e fois que les mamas Conas passaient en chantant toujours plus fort et que les joueurs de Quenya les accompagnaient, et ils étaient arrivés tous à un diapason tel qu'on ne percevait plus dans la maison du serpent que leurs accents déchirants et barbares. Les Indiens de l'assemblée commençaient eux aussi à se trémousser en ululant de droite et de gauche en imitant le balancement des 3 gardiens du temple. Marie-Thérèse regardait toujours le mort, non seulement parce qu'elle ne pouvait faire autrement, en se trouvant en face de lui et comme hypnotisée par lui, mais encore parce qu'elle ne voulait pas regarder les punches rouges. Elle sentait que ses yeux, s'ils ne restaient plus sur le mort, iraient fatalement à ceux-là et les trahiraient. Marie-Thérèse était comme à moitié enfouie déjà dans l'idée de la mort. Il lui semblait que déjà la terre la possédait, qui devait l'étouffer, mais que sa tête était encore libre. Et elle n'avait plus qu'une crainte particulière au milieu de la terreur sans fond dans laquelle elle descendait, c'est que sa tête se tourna malgré elle du côté de ceux qui pouvaient encore la sauver et les désigna à ce peuple fanatique. Ainsi se forçait-elle à l'hypnotisation en face du mort. Et le peuple inca, voyant ce miracle s'accomplir, et qu'elle était déjà prise par le mort, rendait des actions de grâce à la divinité. Mais Huascar leva le bras, fit un signe de deux doigts de la main droite, il eut le silence et une immobilité de tous, instantanée et absolue. Qu'allait-il se passer? Le crâne peint de sucre, le crâne petite valise et la casquette crâne s'approchèrent et désignèrent aux deux mamaconas qui devaient mourir la place restée libre sur le double fauteuil d'or. Celles-ci dirent aussitôt à Marie-Thérèse en indien Aymara: « Allô, Koya, viens, sois heureuse et douce, le roi t'appelle. » Et elles la soulevèrent et la portèrent dans cette place restée libre sur le double fauteuil d'or, à côté du roi défunt Uyana Capax, fils du grand Tupac Inkai Upanqui. Et ceci fait, le fauteuil se trouva face à l'assemblée et face aux ponches rouges. Sa croupe se recourbe en rebli tortueux. Allusion au vers de la mort d'Hippolyte dans la Phèdre de Racine. Marie-Thérèse ferma les yeux pour échapper à l'horreur de se voir côte à côte sur le même fauteuil avec le mort qui devait l'emporter dans la terre, et aussi pour ne pas les voir, eux, les ponchos rouges. Pour ne pas les voir, pour ne pas les voir, car elle se rendait de plus en plus compte que si son regard se croisait avec celui de Raymond ou avec celui de son père, elle éclaterait en sanglots ou se lèverait comme une femme ivre pour courir à eux ou leur crierait quelque chose qui les perdrait tous. Cependant, malgré ses paupières closes et malgré qu'elle parût déjà aussi momifiée que son compagnon le roi, elle était renseignée. Le petit Cristobal, par-dessus les bras recourbés de sa sœur, regardait tout ce qui se passait. Et il lui disait tout bas, si bas que Marie-Thérèse sentait à peine son souffle monter le long de sa gorge nue: « Raymond a levé la tête, et puis papa a fait un signe, mais il faut pas le dire. » Marie-Thérèse mit sur le souffle de l'enfant sa main qui tremblait, et il comprit qu'il devait se taire. Ainsi, ils étaient là, pensait-elle, mais qu'allait-il tenter? Qu'allait-il pouvoir faire? C'était horrible de les savoir là, cachés et impuissants, car s'ils n'avaient pas été impuissants, ils ne se cacheraient pas. Ils seraient venus avec la police, avec des soldats. Mais c'était cela qu'elle ne comprenait pas. Pourquoi se cachait-on pour la sauver? Les Indiens étaient donc les maîtres du pays maintenant? Elle pensa à la Révolution, au général Garcia qui avait demandé sa main. Et pourquoi n'était-on pas allé trouver Garcia? Il serait accouru avec son armée près d'elle. Mais eux, cachés sous leur punch rouge, qu'allait-il faire au milieu de ce peuple qui voulait sa mort? Que pouvait-il pour elle? Bon, cependant, ils devaient avoir leur plan. Les mamaconas chantaient. Des tremblements de terre ébranlèrent le sol, la lune fut entourée d'anneaux de feu de diverses couleurs. Le tonnerre tomba sur l'un des palais royaux et le réduisit en cendres. On vit un aigle chassé par plusieurs faucons remplir l'air de ses cris, planer au-dessus de la grande place de la cité et percé par les serres de ses agresseurs, tombé sans vie en présence des plus nobles Incas. À ces derniers mots qui rappelaient, selon le rite, la défaite et la mort de leur dernier roi, tous courbèrent la tête avec des gémissements et le souffle des joueurs de Kenya trembla dans les eaux des morts. Huascar, lui aussi, s'était incliné. Puis il releva le front. Ses yeux rencontrèrent les paupières de Marie-Thérèse qui s'entr'ouvraient. Elle le vit et frissonna. Elle ne doutait plus qu'il l'aimât et que c'était lui qui la faisait mourir. Quand il fit quelques pas vers elle, elle crut sa dernière heure venue tant son regard était sombre. Elle avait pu supplier la foule anonyme, celui-là, elle ne le pourrait point. Elle referma les yeux. Elle l'entendit alors, qui lui disait d'une voix lente et monotone comme celle d'un prêtre à l'église, « Koya, tu appartiens à Uwana Capax, le grand roi venu des enfers pour te conduire dans la maison du Fils du Soleil. » Nous te laissons seul avec lui. C'est lui qui te conduira au seuil du mystère qui doit rester inconnu des vivants. Il te fera traverser les couloirs de la nuit et te fera connaître, selon le rite, la gloire du Kushko, fils du soleil. Enfin, c'est lui qui, dans le temple, te fera asseoir au milieu des 100 épouses. Tu dois lui obéir et, si tu veux que le charme soit rompu, ne te lève que s'il se lève. Et souviens-toi que le serpent veille dans la maison du serpent. » Il se retira à reculons avec les trois gardiens du temple, pendant que la foule des Indiens s'écoulait lentement par les trois portes. Toutes les mamakonas s'en allèrent aussi, en ramassant leurs longs voiles noirs sur leur tête comme des femmes en deuil qui sortent du cimetière. Et même les deux qui allaient mourir se retirèrent après avoir baisé les pieds de Marie-Thérèse qui était nue sous la robe de peau de chauve-souris. L'idée qu'on allait la laisser toute seule dans cette salle que gagnait la prompte obscurité de la nuit, seule avec son petit Cristobal dans les bras, à côté du mort, l'emplissait d'une horreur plus grande que le spectacle que venaient de lui donner ces sauvages. Pourquoi s'en allait-il? Sans doute parce qu'il allait se passer quelque chose de si atroce qu'il n'avait pas le courage d'y assister. Huascar l'avait dit. Il y a des mystères que les vivants ne doivent pas connaître. Mais qu'est-ce qu'on lui avait préparé avec ce mort? Pourquoi lui avait-on défendu de se lever? Ne te lève que s'il se lève. Il allait donc se lever. Ce mort allait donc marcher devant elle, la prendre par la main avec sa main hideuse de momie, l'entraîner chez les morts par les couloirs de la nuit. Au fur et à mesure que la salle se vidait, on eût dit également que la lumière la quittait. Et les punches rouges? Est-ce qu'il n'allait pas enfin venir à son secours? Est-ce qu'il n'allait pas l'arracher au bras du mort? Ou bien allait-il s'en aller comme les autres? Elle les regarde maintenant, tous les quatre prosternés sur les dalles. Les mamakonas lui ont dit, ce sont les veilleurs du sacrifice. Alors eux, ils vont sans doute rester, parce que le sacrifice est proche. C'est leur devoir de rester. Huascar a dit que tout le monde allait s'en aller, excepté le mort. Il ne pensait certainement pas aux veilleurs du sacrifice qui doivent avoir le droit de rester. Cependant, il faudrait savoir. Les gardiens du temple sont partis, Huascar est parti, les quatre punches rouges vont peut-être le suivre. Non, ils ne bougent pas. Ah, Marie-Thérèse peut les regarder. Ils ne la regardent pas. Ils sont là, écrasés sur la pierre, comme des choses inertes. Mais il n'y a plus qu'une vingtaine d'Indiens dans la salle. Qu'attendent les poulches rouges pour bondir vers elles? Qu'attend Raymond? Qu'attend Raymond? Oh, Marie-Thérèse, nous allons rester seuls avec eux, murmure le petit Cristobal, ils nous sauveront. Oui, c'est cela, évidemment, pense-t-elle, c'est bien cela. Voilà le plan. Ils ont dû séduire les vrais veilleurs du sacrifice, les réduire ou les tuer, acheter la complicité de quelques caciques, ils aiment tant l'argent. Et ainsi se sont-ils introduits dans la maison du serpent, sous les punchs rouges, sachant qu'à la fin de la cérémonie, on les laisserait seuls, tout seuls avec Marie-Thérèse, le petit Cristobal et le mort. Alors, tout allait se passer le plus simplement du monde, car tout pour la fuite avait dû être préparé. Et bien sûr, ce n'est pas le mort qui résisterait. Et maintenant, le mort faisait moins peur à Marie-Thérèse. Elle embrassa le petit Cristobal qui lui rendit son baiser et la serra dans ses petits bras. Encore cinq, quatre, trois Indiens. Ils se retournent pour la voir avant de partir. Oh, elle n'a garde de bouger. Non, 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 pas un mouvement. C'est défendu. Elle ne doit se lever que si le mort se lève. Alors elle reste bien sage, avec son petit frère dans les bras, sur son fauteuil d'or. Plus d'Indiens, plus un, plus personne que les quatre veilleurs du sacrifice, qui se lèvent à leur tour et prennent lentement à leur tour le chemin des portes. Oui, ils s'en vont, eux aussi, ils s'en vont. Ah, Marie-Thérèse a un sourd gémissement. Elle n'ose crier, elle ne sait pas si elle doit, si elle peut crier. Mais de les voir s'en aller comme les autres, sans un regard de son côté, cela lui arrache le cœur. Et voilà que le petit Cristobal pleure, ne peut plus se retenir de pleurer. Ils s'en vont, dit-il dans ses larmes, mais encore elle le fait taire. Il faut voir, il faut avoir du courage jusqu'au bout. Il y en a trois veilleurs du sacrifice, qui lentement, les têtes courbées sous le bonnet sacerdotal, s'en sont allés vers les trois portes. Mais il y en a un, le quatrième, qui s'est arrêté au milieu de la salle, à demi tourné vers Marie-Thérèse. Et celui-là lui fait un signe, et celui-là, c'est Raymond. Ah, sûrement ils sont sauvés. Ils sont sauvés, mais il faut agir bien prudemment, n'est-ce pas? Bien prudemment. Les trois sont donc allés aux trois portes, et ils regardent avec précaution dans les cours, car chaque porte donne sur une cour comme dans tous les palais archaïques, où aucune pièce ne communique avec autre pièce. Est-ce que le peuple d'Indiens est parti? Est-ce qu'il est bien parti? Évidemment, c'est cela qu'ils regardent, c'est de cela qu'ils s'assurent. Et Raymond trouve certainement qu'ils y mettent trop de temps. Il attend le signal. Il attend le signal. Et ses mains armées, terriblement armées, se tendent vers Marie-Thérèse, qui déjà, oubliant la recommandation du Huascar, se soulève sur son trône d'or. Alors que le mort, lui, reste comme il convient aux morts, surtout aux rois morts qui ont de la dignité et le respect d'eux-mêmes, immobile. Ah, le signal, le signal. C'est le marquis qui le donne. Recuerda, souviens-toi. À ce mot d'ordre, qu'il attendait avec une impatience mortelle, Raymond se précipite sur Marie-Thérèse. Le marquis le suit, et tandis que les deux autres continuent de veiller aux portes, tous deux bondissent, gravissent les hauts degrés de porphyre, tendent les bras à Marie-Thérèse. Et Marie-Thérèse, se levant tout à fait cette fois, pousse un cri de joie et de délivrance et est déjà prête à se jeter dans leurs bras tendus avec le petit Cristobal, quand tout à coup, dans la seconde même où elle va quitter le siège fatal, un sifflement sinistre se fait entendre, cependant qu'elle jette une clameur effroyable et qu'elle se débat avec l'enfant dans les replis monstrueux d'une bête énorme qui vient de jaillir autour d'elle, qui l'enserre de ses anneaux, qui la broie, qui la retient, qui l'emprisonne sur le fauteuil de la mort avec le mort. C'est le serpent de la maison du serpent qui garde sa proie. Raymond, le marquis ont jeté un égal cri d'horreur devant ce rempart inattendu qui se dresse en face d'eux, et ils se sont rués sur le monstre dont la tête se balance fantastiquement au-dessus d'eux en faisant entendre un singulier bruit de clochette. Ils veulent lui arracher ses deux victimes. Ils le frappent, ils l'étreignent à leur tour. Ils voudraient le tuer, l'étouffer. Épouvante nouvelle, leurs mains insensées ne rencontrent point la chair vivante, mais le froid du métal, des anneaux qui grincent, qui glissent les uns sur les autres, mus par quelque mécanisme infernal, écailles de cuivre qui défendent Marie-Thérèse et l'enfant contre les efforts qui tentent de les sauver mieux que ne le feraient les barreaux d'une prison. C'est en vain que Raymond essaye d'attirer à lui les membres glacés de Marie-Thérèse, en vain que le marquis a tenu dans ses mains les mains du petit Cristobal. Ils sont impuissants à les arracher au monstre qui continue de balancer au-dessus d'eux sa tête triangulaire dont la gueule entrouverte laisse échapper un sifflement de plus en plus aigu, et cet étourdissant bruit de clochette auquel on accourt de partout. Natividad a crié « Les voilà, les voilà !» Et il s'est sauvé. Mais où se sauver? Et le marquis ne veut plus fuir. Et Raymond ne veut plus quitter Marie-Thérèse. Et la salle tout entière se remplit à nouveau d'indiens, de dignitaires, de caciques, de punch rouge qui crient au sacrilège, de maman connasse qui agitent désespérément leur voile noire, de soldats quichois qui font ouvertement cause commune avec la bande de Viodoruntu, lequel seul reste invisible. Les précautions du fou Orellana. Huascar enfin apparaît. D'où vient-il? Son calme, son immobilité au milieu de tout ce tumulte semblent attester qu'une pareille scène ne l'a point surpris, que rien ne pouvait le surprendre. Il aurait été prévenu de ce qui allait se passer qu'il ne montrerait pas plus de tranquillité. C'est lui qui commande, qui fait charger de chaînes les captifs, le marquis, Natividad et l'oncle François Gaspard, lequel, devant la brutalité de ses agresseurs, recommence à s'inquiéter, à se laisser gagner à son tour par l'épouvante. C'est Huascar qui ordonne à ses Indiens d'emmener les malheureux. Le marquis appelle une dernière fois « Cristobal, Marie-Thérèse !» Mais ils ne lui répondent pas, car ils sont déjà comme morts parmi les anneaux du serpent. Cependant, Huascar est de plus en plus sombre, car c'est en vain que, sur son ordre, dans la salle envahie, on cherche Raymond. Raymond s'est enfui. Raymond serait-il le seul à échapper à sa vengeance? Derrière les captifs, les Indiens ont quitté la salle en chantant la gloire, la force, la ruse et l'adresse du serpent dans la maison du serpent. Pendant le tumulte, les mamakonas ont jeté leur voile de deuil sur la momie assise de Uyanakapak. Les Indiens repartis, elles ont repris leur voile et à leur tour sont partis. Puis sont partis tous les autres dignitaires, à l'exception de Huascar et des trois gardiens du temple, dont les petits poings hideux caressent les anneaux du serpent. Puis Oscar est passé derrière le double fauteuil d'or. Alors, comme s'il recevait un ordre, le serpent a cessé de siffler et il a refermé son ignoble gueule sur le bruit des clochettes et peu à peu il s'est replié, aussi lentement qu'il avait été rapide à se détendre et à encercler la pauvre Marie-Thérèse et le petit Cristobal. Enfin, anneau par anneau, le serpent a fini par disparaître tout à fait derrière le fauteuil d'or. Ouascar, alors, a touché la pierre du mur à l'endroit du Coracuenque, l'oiseau à tête d'homme, et la pierre, de nouveau, a tourné, ouvrant le couloir de la nuit. Aussitôt, le double trône a glissé dans le couloir de la nuit, emportant le roi mort et Marie-Thérèse le petit Cristobal. Et la muraille sur eux s'est refermée, car il y a des mystères que ceux qui ne sont pas encore prêts à mourir ne doivent pas connaître. Aussitôt les trois gardiens du temple ont incliné leurs trois têtes de monstre devant Ouascar, et Ouascar est resté seul dans la maison du serpent, comme c'est son droit, parce que Ouascar est le dernier grand prêtre des derniers Incas. Il s'est assis, solitaire, sur la plus haute marge de porphyre, et dans la nuit il s'est pris la tête dans les deux mains. Ainsi il resta jusqu'à l'aurore. Dissimulé dans une niche de pierre creusée par la main des Incas, Raymond attendit Ouascar toute la nuit devant la maison du serpent. Mais il ne vit sortir aucun de ceux pour lesquels il est resté là, malgré le danger qu'il courait d'être reconnu par les Quichuas, dignitaires de l'Interaimi. Certains, en passant, jetèrent un coup d'œil rapide sur ce pauvre Indien qui semblait dormir, roulé dans son punch, mais nul ne se douta que l'homme était celui qui leur avait échappé au moment du sacrilège. Les ombres de la nuit étaient du reste favorables à Raymond. C'était elle qui l'avait sauvé dans cette vaste salle où s'étaient rués les Indiens à l'appel du serpent à clochette. Dans le tumulte et la confusion générale, il avait eu la présence d'esprit de retourner le punch rouge qui ressemblait maintenant sur ses épaules à tous les autres punchs quichois. Il était sorti avec la foule, s'était trouvé dans la rue avec elle et était resté dans cette niche, accablé par les événements. Il n'avait plus aucun espoir, les Quichuas étaient les maîtres du pays. La dernière victoire de Garcia leur avait livré le Cusco. Tous ceux qui n'étaient pas indigènes avaient fui. Or, sur les 50 000 habitants de l'antique cité, les 7/8 étaient de pure race indienne, qui ne s'étaient pas vus à pareille fête depuis la conquête espagnole. Les quelques troupes que Garcia avait laissées là, auxquelles du reste étaient venus se joindre avec enthousiasme les soldats vaincus de Ventimiglia, faisaient chorus avec la population indigène, d'où ils étaient tous sortis et dont ils partageaient les mœurs, les croyances, le fétichisme. Toute la région était dans un état d'exaltation incaïque que rien ne pouvait calmer depuis que Garcia s'était éloigné par prudence du reste. Le général n'avait pas voulu tenter l'aventure de s'opposer personnellement aux manifestations d'un fanatisme qui, selon lui, devait tomber tout naturellement après les fêtes de l'Interaimi. En attendant, le pays était redevenu le domaine sacré des fils du soleil comme au plus grand jour des Incas. Les chants, les processions, les danses ne cessaient pas. Quand Raymond et ses compagnons étaient arrivés aux environs du Cusco où ils avaient caché leur automobile dans un des tambos dont ils avaient acheté le propriétaire, il leur avait bien fallu se rendre compte de l'impossibilité où ils étaient de tenter un coup de force. Heureusement, Lord Garcia était là, suprême espoir. Ils avaient promis à l'aubergiste, qui était un métis fort pauvre, ne demandant qu'à devenir riche, une petite fortune, s'il parvenait à leur amener un ou deux punchos rouges, susceptibles de s'entendre avec eux pour affaires d'importance, moyennant la forte somme, et cela en cachette de Huascar. Le métis leur en amena quatre qui devaient être le soir même les veilleurs du sacrifice et dont la fonction consisterait à rester les derniers dans la maison du serpent devant la Koya et la Huayna Capac avant le mystère des couloirs de la nuit. Cela vraiment tombait bien. Cela tombait trop bien et ils eussent dû se méfier. Mais Raymond et le marquis étaient trop heureux de pouvoir enfin pénétrer jusqu'à Marie-Thérèse pour s'arrêter à des détails qui auraient éveillé la prudence des moins habiles. François Gaspard, qui avait assisté à la combinazione, avait pu, avec quelque raison cette fois, hausser les épaules de mépris pour une aussi pauvre politique. Tout avait été réglé avec les punch qui tournaient à cher immédiatement moitié de la somme et qui devaient avoir le reste après le succès de l'entreprise. Il était entendu, du reste, qu'ils collaboraient en facilitant l'enlèvement et en se faisant les gardiens de l'une des portes par laquelle la petite troupe pourrait s'échapper, le coup fait, avec leur précieux butin. Sur quoi les quatre voyageurs avaient revêtu le manteau des veilleurs du sacrifice et s'étaient grimés et avaient coiffé le bonnet à oreillettes. La cérémonie devait avoir lieu vers la fin du jour au milieu d'une populace en liesse, qui donc se mêlerait de reconnaître ces faux prêtres dont le rôle consistait à toucher de leur front les degrés de pierre. François Gaspard avait été naturellement le premier à se prêter à cette mascarade, comme il l'appelait. Il avait accepté son rôle avec une bravoure tranquille qui lui avait fait reconquérir toute l'estime perdue dans l'esprit du marquis et aussi dans celui de son neveu. Natividad pensait lui-même un peu à Jenny l'ouvrière, mais l'affaire paraissait proche du dénouement. Il savait par métier qu'on pouvait faire dans ce pays beaucoup de choses avec de l'or et il connaissait particulièrement la vénalité des Indiens. Il ne doutait point, lui, du succès final de cette petite tragicomédie. L'Indien, tant de fois, avait été joué par le blanc. Or, dans la circonstance, c'était le blanc qui était joué par l'Indien. Ils s'en aperçurent alors des pans, où Huascar les avait, dans leur ponche rouge, convenablement roulés. Où étaient-ils maintenant, les veilleurs du sacrifice? Ce qui devait sauver Marie-Thérèse et Cristobal, ou le marquis, ou Natividad, ou l'illustre membre de l'Institut, au fond de quel cachot et promis à quel destin? Dans cette rue sombre devant ce palais fatal, Raymond attendait Huascar pour le tuer, mais personne ne sortait plus de la maison du serpent. À l'aurore, une main se posa sur le bras du faux Indien. Celui-ci releva la tête. Il reconnut le grand vieillard qui suivait Huascar sur la place d'Arequipa. Il avait devant lui le père de Maria Cristina d'Orellana. « Pourquoi restes-tu ici ?» lui demanda le vieillard. « C'est pas de ce côté que la procession apparaîtra. Viens avec moi. » Tu pourras voir ma fille qui va sortir du couloir de la nuit. » Ces paroles du pauvre fou frappèrent Raymond, d'autant que de nombreux groupes d'Indiens passaient maintenant dans la rue, suivant tous la même direction. Le vieillard lui dit encore, « Viens avec eux, tu vois, ils vont tous à la procession de l'épouse du soleil. » Raymond se leva et le suivit. Dans son horrible situation, qui n'était comparable à rien de ce qui put être imaginé de raisonnable dans le monde actuel civilisé, il finissait par trouver tout naturel qu'il se laissa diriger par un fou. Le vieillard, en marchant, lui disait « Oh, je te connais bien. Tu es venu dans le pays pour voir l'épouse du soleil. » Tu t'es même déguisé en Indien pour cela, mais c'est bien inutile. Tu n'as qu'à venir avec moi, tu la verras, l'épouse du soleil. Je suis celui qui connaît le mieux Cusco et la province, par-dessus et par-dessous. J'ai vécu 10 ans dans les souterrains. Oh, quand je ne sais pas dans les souterrains, je fais visiter la ville aux étrangers. Et je les conduis à toutes les étapes que parcourait autrefois l'épouse du soleil avant d'être réunie au soleil dans le temple de la mort, qui est aussi bien entendu le temple du soleil, mais par en dessous. Tu verras, c'est très curieux. Oh, aujourd'hui, ce sera même plus curieux que la dernière fois, parce que la dernière fois, ils étaient obligés de se cacher et les processions n'avaient lieu que dans les couloirs de la nuit. Mais aujourd'hui, ils sont les maîtres, par-dessus comme par-dessous. Où y en a qu'à Pâques, le roi mort osera regarder une fois encore le soleil vivant. Et ils se promèneront dans les rues de la ville. Oh, si tu sais pas cela, c'est que t'écoutes pas ce qui se dit autour de toi. Et où sont tes compagnons? J'aurais pu leur faire visiter la ville, à eux aussi, et leur faire suivre les étapes aussi. Eh, tu sais, j'aurais pas demandé plus cher. Quelques centavos me font vivre pendant des semaines. Les aubergistes le savent bien, qui me confient leurs étrangers pour la visite de la ville, et nul ne la connaît mieux que moi. Tu es venu pour les fêtes de l'Interaimi, je t'ai vu pour la première fois à Moliendo, puis à côté de la maison du Rio Chili à Arequipa, et puis devant la maison du Serpent. Eh bien, ce sont toutes les étapes avant les couloirs de la nuit. C'est par là qu'il y a 10 ans, ils ont conduit ma fille, Maria Cristina, qui était la plus belle fille de Lima, et qu'ils ont jugée digne de leur Dieu. Moi, j'étais pas prévenu. Oh, mais cette fois, ça se passera pas comme ils le croient. Quand j'ai vu revenir les fêtes de l'Interaimi, je me suis dit, « Orellana, il faut prendre tes précautions. » Et je les ai prises, ma parole. Allez, viens, j'entends le bruit des flûtes d'os de mort. Le cortège de l'Interaimi. Il lui fit traverser tout Cusco. Et Raymond ne voyait rien de l'antique Cusco cyclopéen sur lequel est construit le Cusco moderne. Il passait au milieu de cette ville prodigieuse qui fut élevée sans doute par des géants ou par des dieux, car les blocs de granit et de porphyre dont elle est faite n'ont pas bougé depuis qu'une force inconnue aux hommes de notre temps les a amenés là. Et ils ne bougeront jamais, et ils mourront avec la terre. Cependant que le souffle du ciel ou le tremblement des monts aura depuis longtemps fait disparaître les petites bâtisses des conquistadors. Il passait aveugle au milieu de ces effarants vestiges du passé. Il marchait, suivant la foule, suivant le vieillard qui le conduisait à une nouvelle étape du martyre de Marie-Thérèse. Ils sortirent de la ville, et Orellana, le prenant par la main, comme s'il eût fait d'un enfant, lui fit gravir un monticule appelé en quichua « Crisilio Nguima », l'endroit où danse le singe. Là, ils durent gravir un des blocs granitiques sculptés et transformés par les travailleurs incas en terrasses, en galeries, en marches géantes. D'innombrables Indiens couvraient déjà ces pentes surnaturelles et tous avaient les regards tournés vers le Sacsayhuaman, la colline de pierre, le front cyclopéen, premier témoin de la grandeur des anciens âges. Sa longueur dépasse 1000 pieds et il possède 3 murs d'enceinte, montant les uns au-dessus des autres et creusés de niches où, ce jour-là, comme autrefois, s'abritaient les sentinelles. Tous les yeux étaient donc tournés vers le Sacsayhuaman et tous les yeux sur le Sacsayhuaman regardaient l'Intihuatana, qui est le pilier où l'on attache le soleil. Orellana, de sa voix cassée, expliquait comme un guide qui ne saurait perdre l'habitude d'expliquer. « Vous voyez, Seigneur, le pilier qui servait aux Indiens à mesurer le temps. C'est lui, aujourd'hui, qui distribue, comme il convient, les heures de la fête. C'est une pierre religieuse, érigée pour fixer l'époque précise des équinoxes. C'est pourquoi on l'appelle Intihuatana, où l'on attache le soleil. Ah, ah, attention, tenez, voilà la procession qui commence. Il faut que vous sachiez que les couloirs de la nuit s'étendent sous la ville et la campagne, entre la maison du serpent et le Sacsayhuayamnam. Quand ma fille sortira des couloirs de la nuit, ce sera pour faire le tour du Sacsayhuayamnam et le tour de l'Intihuatana. Alors, le soleil ayant été détaché par le grand prêtre, la procession s'en ira vers les portes de la ville. En effet, Raymond voyait maintenant très distinctement tout un cortège qui se formait autour des murailles, et il distingua en tête Ouaskar qui donnait des ordres. Alors il ne s'occupa plus d'Orellana, et courut de ce côté, et se rapprocha le plus qu'il put de la procession, sans parvenir toutefois à percer les rangs des premiers Indiens qui remplissaient l'air de leurs cris. Il n'était pas trop loin du pilier à mesurer les solstices. Il put voir que cette colonne solitaire, placée au centre d'un cercle, toute chargée de guirlandes de fleurs et de fruits, était surmontée d'un trône doré. Exclusivement réservé au soleil, ce trône qui avait disparu depuis des siècles avait été apporté là, avant l'aurore, du fond des couloirs de la nuit. Étourdi par les cris, les chants, les bousculades, Raymond dut attendre là pendant plusieurs heures, luttant avec une astuce silencieuse pour garder sa place. Il ne voyait plus Ouaskar et il finit par comprendre que les quelques prêtres qui tournaient incessamment autour de l'Institut Anadan attendaient l'heure de midi. Enfin, il revit Ouaskar, qui avait revêtu une chape d'or qui brillait comme le soleil lui-même. Tourné vers le fauteuil du soleil, le grand prêtre attendit quelques secondes. Puis il cria en aïmara cette phrase qui fut répétée de toutes parts en quichua et en espagnol. « Le Dieu est assis dans toute sa lumière sur la colonne. » Et après avoir attendu encore quelques secondes, il frappa dans ses mains et donna le signal de la marche de tous. Le Dieu était délivré, c'est-à-dire qu'après avoir visité son peuple, il continuait librement son chemin dans les cieux. Le peuple le suivit sur la terre, de l'est à l'ouest. Ce fut d'abord le collège sacré qui s'ébranla. Ouaskar, en tête, suivi de quelques centaines de serviteurs du Dieu, habillés simplement et employés à débarrasser le chemin de tout obstacle et chantant dans leur marche les chants de triomphe, puis une centaine de personnages leur succédèrent, vêtus d'une étoffe éclatante à carreaux rouges et blancs, disposés comme les cases d'un échiquier. À leur aspect, le peuple cria « Les Amotas, les Amotas !» c'est-à-dire les sages, et il leur fit fête. Puis d'autres vinrent qui étaient tout en blanc, portant des marteaux et des massues en argent et en cuivre. C'étaient les appariteurs du palais royal. Puis les gardes, ainsi que les gens de la suite immédiate du prince, qui se distinguaient par une riche livrée azur et par une profusion d'éléments éclatants, enfin les nobles qui avaient d'énormes pendants d'oreilles. Toute la procession descendait du Sacsayhuayamnam vers la plaine, et ce fut le tour de la vaste litière qui portait le double trône d'or d'apparaître aux yeux éblouis du peuple assemblé. 1000 acclamations montèrent vers elle, à l'aspect du roi défunt et de sa compagne vivante, cris mêlés d'enthousiasme pour le descendant de Mankopakap et de haine sauvage pour celle qui représentait la race conquérante, la victime qu'on allait offrir en holocauste à l'astre du jour. Sur tous les gradins, une clameur funèbre la salua. « Muera la colla, muera la colla !»« À mort la reine, à mort la reine !» Marie-Thérèse paraissait déjà aussi morte que le roi, son compagnon. Elle se laissait balancer au rythme des pas des nobles incas, porteurs de la litière. Elle était d'une beauté de statue et aussi blanche que le marbre le plus blanc, et elle avait toujours dans les bras le petit Cristobal, comme une Vierge Marie, l'enfant Jésus. On leur avait enlevé à la sortie des couloirs de la nuit leur robe de chauve-souris pour leur faire revêtir la tunique de laine de vigogne si fine qu'elle avait l'apparence de la soie. Les deux mamas connasses qui devaient mourir venaient derrière la litière, la tête entièrement recouverte de leur voile noire. Les autres mamas connasses, les trois gardiens du temple, avaient disparu. Enfin, le cortège se terminait par une compagnie très mêlée de soldats quichois qui avaient le fusil sur l'épaule et qui marchaient au pas, au son des flûtes d'os de mort. Les joueurs de Quenya fermaient la marche. Le contraste était assez savoureux du spectacle de ce cortège antique et de ce bout d'armée moderne, mais seul l'oncle Zou eût pu en jouir, et l'oncle Zou n'était pas là. Quant à Raymond, aussitôt qu'il avait aperçu Marie-Thérèse, il était devenu comme fou. Ne pouvant en pénétrer plus avant dans la foule, il s'était rué en arrière pour pouvoir courir vers les portes de la ville, où il espérait bien se placer directement sur le passage du cortège. Mais au moment où il atteignait les derniers degrés de la colline du singe qui danse, il fut immobilisé par la foule immobile, tournée vers le sommet du Sacsayhuayhuayman, où apparaissait tout en haut de la plus haute tour la silhouette éclatante rouge dans l'azur d'un prêtre dont la voix se répandait sur la plaine. Raymond reconnut le prêcheur de la pierre du sacrifice, le moine rouge du Cajamarca. Et il sut qui il était, car autour de lui on murmurait « Le grand officier des Kipukamias, c'est-à-dire des gardiens du Kipus, c'est-à-dire les gardiens de l'histoire. » Et la voix, descendue du Sacsayhuayhuayman, chantait pendant que le cortège s'était arrêté, la gloire d'autrefois, puis elle rappela le jour où l'étranger était entré pour la première fois dans cette plaine avec son armée diabolique après la mort d'Atahualpa. Le soleil, comme aujourd'hui, inondait de ses rayons la cité impériale où tant d'autels étaient consacrés à son culte. Alors, d'innombrables édifices dont il ne veut faire que des ruines couvraient de leurs lignes blanches le centre de la vallée et les pentes inférieures des montagnes. La multitude des Incas s'en était allée au-devant de son nouveau maître, dans la terreur où l'avait jeté l'affreux sacrilège, le crime qui avait frappé la divinité sur la terre. Et ils avaient regardé avec épouvante ces soldats dont les exploits avaient retenti dans les parties les plus reculées de l'Empire. Ils avaient contemplé, étonné, leurs armes brillantes, le teint de leurs visages si blancs, qui semblaient les proclamer les véritables enfants du soleil. Ils avaient écouté, avec un sentiment de crainte mystérieuse, la trompette qui jetait ses sons prolongés à travers les rues de la capitale et le sol qui résonnait sous les pas pesants des chevaux. Et ils avaient fini par se demander, en ce temps-là, de quel côté était l'imposture. Car le chef des étrangers traînait avec lui Manco, le descendant des rois, et agissait en son nom, et commandait en son nom. Quand le soleil s'était caché, ce jour-là, derrière les cordillères, on eût pu croire que l'empire des Incas avait vécu. « Mais il n'en est rien !» reprenait la voix avec une force nouvelle. « Il n'en est rien, puisque le soleil brille toujours sur ses enfants, puisque les ans de nourricière dressent encore leurs pics dans les cieux, puisque Cusco, le nombril du monde, tressaille toujours à la voix de ses prêtres, puisque dans la plaine sacrée, le Sacsayhuayhuayman et l'Entihuatana sont toujours debout. Et puisque se déroule au pied des murailles saintes, comme jadis, le cortège de l'Interaimi,